Place de la Toile, le magazine hebdomadaire des cultures numériques, des nouvelles technologies et de leurs usages. Aujourd'hui, retour sur la Lift 10, où nous parlerons d'algorithmes et de nouveaux paradigmes intellectuels avec Mercedes Boons, de réseaux sociaux et d'identité avec Olivier Glasset, de stratégie de campagne avec Raph Harfouch, de journalisme en ligne et des médias coréens avec Yeon Ho-ho, de technologie et de culture en Chine avec Basile Zimmermann et de futurisme avec James Cassio. Bonjour à toutes et à tous. La Lift est un des événements qui compte en Europe dans la réflexion sur le numérique et les nouvelles technologies. Sa 6e édition s'est tenue la semaine dernière à Genève. Elle réunissait, comme les précédentes, des professionnels, des chercheurs, des développeurs qui se sont succédés pendant 3 jours sur l'impressionnante scène du Centre international de conférences de Genève pour présenter à grand renfort de slides le fruit de leurs travaux, des plus techno aux plus prospectifs. Ce fut l'occasion de rencontrer des gens qui ne sont pas faciles à voir, comme par exemple le célèbre futuriste américain James Cassio ou le fondateur du journal en ligne coréen Oh My News, Yeon Ho-ho. L'occasion d'avoir avec eux des discussions tranquilles dans les grands canapés du CICG et de vous faire part ce matin de quelques réflexions qui, au milieu de beaucoup d'autres, m'ont intéressé particulièrement pendant ces 3 jours. Ce sera donc un peu éclaté ce matin. On parlera de claviers et de réseaux sociaux, de science-fiction et de jeux de Go, de Foucault et de Barack Obama, mais c'est le principe de la Lift que de parcourir tous azimuts les nouveaux territoires qui s'ouvrent à nous. Et j'ai pu réaliser une sorte de petit fantasme, rencontrer Mercedes Boons. J'avais parlé d'elle ici même il y a quelques semaines à propos d'un papier qui expliquait ce que le journalisme d'investigation pouvait gagner à utiliser Twitter et les réseaux sociaux. Mercedes Boons est jeune, allemande et journaliste dans le quotidien britannique Le Guardian, rubrique technologie. Elle réussit à réunir ses acquis universitaires en philosophie et histoire de l'art avec sa connaissance des problématiques numériques et sa pratique de journaliste. Un profil intéressant donc. Son intervention à la tribune a un peu déstabilisé les participants, je l'ai retrouvé un peu après pour revenir sur quelques points de sa présentation et pour commencer sur la manière dont notre rapport à la connaissance était en train de changer.
Avant, il n'était pas vraiment possible de savoir ce qui se passait dans le temps présent. Le présent était un petit lieu minuscule, alors que le passé était un gigantesque espace plein d'informations. Maintenant, avec l'Internet en temps réel, le présent est pour la première fois archivé. Des archives qui nous sont fournies en temps réel par les blogs, par Twitter, Facebook ou les données personnelles. Aujourd'hui, on peut savoir ce qui se passe en différents lieux du monde à l'instant T. Avant Internet, seul le président des États-Unis avait un réseau suffisamment étendu pour pouvoir appeler et demander ce qui se passait à Paris, à Dublin ou à Londres. Aujourd'hui, chacun d'entre nous peut faire ça.
Mais ce sont les algorithmes qui font ça.
Oui, ce sont les algorithmes des moteurs de recherche. Tous, enfin ceux qui sont sur Internet, nous utilisons des moteurs de recherche et c'est principalement de là que nous tirons nos connaissances aujourd'hui. Or, c'est un marché, ce qui représente à mes yeux un grand changement. Auparavant, la connaissance était produite par des institutions, comme les institutions scientifiques, les universités, qui étaient la plupart du temps financées par l'État. Le grand changement avec l'Internet, c'est que le financement est privé. Et je ne suis pas certaine que ce soit toujours le bon choix.
Vous avez parlé à la fin de notre speech de la question du pouvoir et de ce qui changeait dans cette espèce de double entité entre le pouvoir et la résistance. Est-ce que vous nous expliquez un peu et développer cette idée-là ?
C'est un vieux modèle, celui du friend-ennemi, de l'ami-ennemi, la réunion de l'ami et de l'ennemi. On utilise souvent ce modèle pour décrire Google, parce que Google, c'est cet énorme et monolithique moteur de recherche, à peu près 96% des recherches en Europe où on utilise tous Google. Google a un énorme pouvoir, il sait parfaitement quelle recherche je fais et j'utilise Gmail, comme beaucoup de gens. Google possède beaucoup d'informations sur moi, et je ne suis pas toujours à l'aise avec l'idée que Google ait autant de pouvoir. Mais en même temps, je dois reconnaître que Google est utile. C'est un très bon outil de diffusion de la connaissance. Je pense que dans une certaine mesure, la numérisation des livres est une bonne chose. Google apporte de la connaissance. Donc comment juger une entité comme Google ? C'est un ami-ennemi. On ne peut plus juger de telles entités avec de vieux couples comme pouvoir et résistance.
Judge it anymore in old relations like power and resistance. So the philosopher that thought about it in a new way was
Michel Foucault nous a permis de penser de tels couples d'une nouvelle manière. Il a déconstruit la vieille opposition entre pouvoir et résistance sur laquelle s'appuyait Hegel par exemple. Foucault a transformé cette opposition en une relation. Maintenant, on peut aller encore plus loin et penser à des oppositions en termes d'intérieur et d'extérieur. Je continue à utiliser Google, mais je dois rester à distance de Google. Je dois contrôler Google. C'est, je pense, la bonne manière de décrire l'attitude que nous devons adopter face à ce nouveau type de pouvoir. Nous ne devons pas nous y opposer, mais le contrôler.
Est-ce que vous êtes heureuse de vivre cette époque de deux manières, ça, à la fois en tant que vous-même et puis en tant que journaliste, de la vivre en tant que journaliste?
Très heureux.
Les 10 dernières années ont été très difficiles. Nous devions attendre de voir ce qui allait se passer. Quand on cherche à décrire théoriquement ce monde, on utilise une notion comme le post-structuralisme. On utilise des mots qui décrivent le monde de 68, des années 70. On utilise Derrida, Foucault. Aujourd'hui, on utilise peut-être Rancière, Étienne Balibar et d'autres encore. Je les adore, mais ils sont d'une autre époque. Le monde a changé. Et je suis vraiment heureuse parce que je pense qu'aujourd'hui, on peut commencer à décrire ce qui se passe et beaucoup de nouvelles choses se passent. Et en les décrivant, on peut leur donner une forme et participer aux changements qui ont lieu.
Et est-ce que vous voyez d'ailleurs émerger des penseurs qui arrivent à penser ce monde
Je pense que nous devons tous le faire, et peut-être n'avons-nous plus besoin de la figure tutélaire comme nous en avions jusque-là. Nous vivons dans un monde de crowdsourcing, et je ne sais pas si de telles figures existent. Peut-être y en a-t-il, peut-être y en aura-t-il. Mais ce monde vient de naître et il est en train d'émerger en ce moment même. Aujourd'hui, nous devons simplement regarder autour de nous, les yeux grands ouverts, ne pas abandonner notre esprit critique, mais ne pas nous opposer à la nouveauté. Nous devons seulement décrire ce qui se passe et tout ira bien. Mais oui, c'est un défi.
Mais c'est un effet, selon vous, de la numérisation générale, enfin de l'entrée dans l'ère numérique, le fait justement qu'il n'y ait pas plus de père intellectuel, de père spirituel.
Je ne pense pas que ce soit seulement un effet de la numérisation. La société a changé entièrement. On a besoin de quelqu'un qui fasse une bonne synthèse de tout ça, mais on n'a plus besoin de figures tutélaires. Cette nouvelle société n'a aucun usage des avant-gardes comme il en existait avant. Avant, il y avait ces groupes de gens qui formaient des avant-gardes et entraînaient tout le monde.
The avant-garde and everybody else like came after. And now
aujourd'hui,
yeah, we have it works different.
Ça fonctionne différemment.
Je
ne peux pas dire exactement comment ça fonctionne aujourd'hui. Il faudrait que je retourne y réfléchir en bibliothèque pendant une semaine. Mais je suis certaine que quelque chose est en train de se passer. Je pense qu'ils seront quelques-uns, qu'ils se parleront, qu'ils s'enverront des mails, peut-être ouvriront-ils des blogs, et je ne crois pas que ce seront des figures tutélaires, des penseurs surplombants. Je pense que ça ressemblera plutôt à un réseau.
Simple Song for a Complicated Girl, extrait du dernier album du groupe français 1973. Quant à Mercedes Boons, elle est journaliste à la rubrique technologie du quotidien britannique The Guardian. une des questions qui ont été discutées pendant cette Lift 10, c'est évidemment celle de la vie privée et des identités numériques. C'est une question centrale. On en a parlé dans Place de la Toile la semaine dernière avec Daniel Kaplan et Arnaud Belleil. Mais au détour de son intervention sur cette question, le sociologue Olivier Glasset de l'Université de Lausanne a posé une question toute simple, mais fort stimulante. Les réseaux sociaux sont-ils vraiment sociaux? Je me suis empressé de lui renvoyer sa question en lui demandant aussi ce qui le motivait à se la poser.
La raison pour laquelle je me pose cette question, c'était qu'en tant que sociologue, je pense que j'ai eu un moment d'émerveillement. Et je suis toujours très intéressé par ces dynamiques qui se sont mises à l'œuvre. Et tout d'un coup, on mettait l'étiquette sociale sur toutes ces technologies. Donc il y avait une forme un peu de revalorisation, j'allais dire, de ce que c'était que la sociologie. Je ne peux pas nier, disons, cette dimension-là. Il faut quand même être un peu cohérent. Puis après, un peu avec le recul ou avec l'analyse, on se rend compte qu'il y a quand même quelque chose qui est un peu de l'ordre de l'usurpation. Je veux dire, on colle cette étiquette sociale parce qu'il y a de la communication, parce qu'il y a de l'échange, mais est-ce que ce social se résume à cela? Est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin? Et c'est pour ça que je prenais l'exemple de la flexibilité de nos rôles sociaux, cette façon que nous avons en tant qu'êtres humains de pouvoir passer très rapidement d'un rôle à l'autre, face à dispositifs techniques qui sont, alors, à cet égard, encore très très lourds et qui nous demandent encore d'appuyer sur des boutons, de faire des choix pour pouvoir naviguer entre nos différentes identités sociales. Donc cet écart entre ces deux réalités, c'est-à-dire notre flexibilité d'êtres humains sociaux et ces technologies qui restent encore, alors là, pour le coup, rudimentaires à cet égard, hein, elles sont merveilleuses peut-être pas à d'autres égards, me permettent, disons, de mettre en doute, disons, là aussi, une espèce d'avènement d'une technologie qui serait, elle, sociale, plus que d'autres technologies qui, elles ont aussi toutes traversé la société, engendré des nouvelles pratiques, permis des nouveaux modes de communication à leur manière. Donc, de mettre en exergue ces technologies de manière spécifique me paraît, avec le recul peut-être un peu de la sociologie des usages et des techniques, me paraît peut-être un peu présomptueux, peut-être, somme toute.
C'est pour revenir sur cette question de la différence de flexibilité, disons, dans une sociabilité hors ligne et en ligne. Vous faites référence à quoi exactement comme aptitude, disons, humaine, si on peut dire?
En fait, ce qui est frappant quand on regarde les gens qui sont des nouveaux utilisateurs ou ceux qui ne se préoccupent pas justement des configurations techniques, c'est que souvent leur univers Facebook est écrasé. C'est-à-dire qu'il y a différentes catégories sociales auxquelles ils appartiennent, le monde professionnel, leur famille, leurs amis, se retrouvent dans un espace hybride qui n'est pas celui dans lequel il se retrouverait dans la réalité. C'est-à-dire que quand on est avec ses amis, je ne sais pas, en sortie, ou quand on est en famille, ou quand on est au travail, ou quand on est en cours, je veux dire, ce sont des univers qui communiquent relativement peu entre eux, ou alors avec des canaux assez limités. Et ces univers-là se retrouvent mêlés dans ces espaces-là, et il y a ce mélange-là, enfin, en tout cas, à mon avis, il est quand même relativement... il représente un signe, peut-être, de cette difficulté à arriver à se projeter dans nos différents rôles sociaux au travers de ces outils-là. En tout cas, pourquoi je dis ça, c'est parce qu'il y a énormément de problèmes. Si on regarde les petites histoires qui se racontent sur Facebook, il y a des pages entières, des sites qui sont dévolus à ces personnes à qui leurs parents leur ont demandé d'être amis sur Facebook, ou des études qui montrent que plus des deux tiers des employés refusent que leur patron soit leur ami sur Facebook. Donc il y a aussi des tentatives de reconfiguration qui montrent bien qu'on n'est pas aussi à l'aise que cela. Et que alors que dans la vie de tous les jours, ce sont peut-être des catégories que nous avons domptées depuis très longtemps, même si elles peuvent nous poser quand même certains problèmes, mais on sait quand on est au travail ou on sait quand on est à l'école, et c'est vraiment des apprentissages sociaux auxquels on est soumis très tôt, parce que si nous ne nous conformons pas, une des premières choses qu'on apprend à l'école, c'est de quelle manière s'adresser à quelle personne, et si on ne se conforme pas à ces règles-là, on est tout de suite remis à l'ordre, c'est-à-dire qu'on ne peut pas transgresser, parler dans tel espace social comme on en parlerait, comme on s'exprimerait dans un autre espace social, et cette complexité-là que nous arrivons à intégrer de manière assez naturelle, elle est loin d'être réalisée, j'allais dire, en tout cas pour la plupart des usagers qui utilisent ces plateformes.
C'est intéressant, ça veut dire qu'en gros l'usage effectivement de masse de ces plateformes-là, ce serait un usage d'identité. En fait, vous avez utilisé l'adjectif compressé. Compressé. Non, mais c'est intéressant parce que c'est en gros l'idée que c'est une sorte d'identité un peu, comment dire, un peu archaïque, un peu pas développée, pas aussi complexe et pas aussi que celle que. C'est à peu près ça que je comprends. Et je trouve que c'est une idée qui est assez intéressante.
Alors, elle est imbriquée. En fait, on crée de nouvelles imbrications. On crée des hybridations, en fait. Alors, je ne sais pas si elles sont archaïques dans le sens où elles sont quand même riches des rapports sociaux qu'on a par ailleurs avec ces différents groupes. Et peut-être qu'elles peuvent être innovantes, c'est-à-dire qu'on crée des nouveaux espaces sociaux où, je ne sais pas, il y a une mixité entre des parents et des anciens camarades, je ne sais pas, de cours de langue. Je veux dire, bon, alors, bien sûr, dans la réalité, la communication ne passe pas automatiquement de l'un à l'autre et on reste quand même l'essentiel, disons, traducteur des communications, mais dans notre manière de représenter, ça pose quand même un problème sur simplement la question des stratégies de comment ajouter des personnes dans son réseau social. Soit on en crée différents avec des buts distincts et dans des univers justement sociaux distincts, soit alors on découvre un peu cette mixité qui implique un peu de quand même de trouver des nouveaux équilibres ou peut-être des nouvelles finesses dans la manière de gérer des informations qui avaient par essence vocation à n'être diffusées que dans certains groupes sociaux.
Imagine a song that really reached out and touched kids, and not in a Daily Mail way, innocence corrupted, but in a way where criticism remained constructive. And wasn't too politicized, and children weren't instructed to behave in a way that was unrealistic, or made out the way they lived was somehow sick and twisted, but simply pointed out reasons to get it together, not shouting.
Olivier Glasset est sociologue à l'université de Lausanne, et vous entendez Get Better, extrait de Logic of Chance, le dernier album du groupe de hip-hop électro anglais Dan Le Sac Against Scroobius Beep. Raf Arfouche, elle a une trentaine d'années, elle est canadienne, elle travaille en ce moment au Forum économique mondial à Genève, mais elle a vécu il y a 2 ans une expérience dont elle est venue parler à la Lyft et dont elle nous a fait le récit à l'époque. Elle est spécialisée dans les réseaux sociaux et dans la manière dont on peut les utiliser à des fins de stratégie marketing notamment. Elle a une entreprise de conseil, elle travaille à l'écriture de plusieurs livres et elle décide, pour se documenter, d'aller voir l'équipe de campagne du jeune sénateur noir de l'Illinois, Barack Obama. Et là, elle fait une rencontre qui va l'occuper quelques mois. C'est aussi un petit cours de stratégie politique sur le web.
J'ai rencontré un jeune homme qui s'appelait Chris Hughes. Et il est juste incroyable. Il était le directeur de communication, the director of internal organizing, c'est ça son titre. Et c'est lui qui était responsable pour gérer les réseaux sociaux pour Obama. Et il était un des jeunes qui a créé Facebook. Donc il a beaucoup d'expérience dans comment créer des communautés sur le web. Et c'est à lui avec qui j'ai fait une interview avec lui. Et après avoir entendu ses idées, ses pensées et voir la stratégie qu'il est en train de faire pour aider Obama. Et quand je lui parlais la première fois, Obama était une personne inconnue, quoi. C'était un peu ridicule de penser qu'il avait vraiment une chance de devenir le président des États-Unis. C'était quelque chose qui était comme un rêve. Et de voir comment Chris, il croyait tellement dans ces technologies, il croyait tellement dans les gens et dans le peuple des États-Unis, ça m'a inspirée. Et je me suis dit, je ne comprends pas vraiment les politiques américaines, mais j'aimerais voir qu'est-ce qui va se passer avec ça. Et je lui demandais, est-ce que je peux, moi j'ai un peu d'expérience dans ce domaine, est-ce que je peux aider? J'adorais de juste voir, observer ce que vous faites. Et il a dit, bien sûr, et je suis descendue.
Et qu'est-ce qui était vraiment exceptionnel dans la campagne d'Obama? Parce qu'on en a beaucoup parlé. Aujourd'hui, finalement, c'est des choses qui se pratiquent couramment. Enfin, aujourd'hui, c'est-à-dire 2 ans après. Ouais. Mais qu'est-ce qui était vraiment exceptionnel et en quoi ça se différenciait aussi de ce qu'avait tenté Howard Dean, le candidat démocrate, 4 ans avant, qui avait complètement échoué? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Est-ce que c'est une histoire de contexte ou est-ce que vraiment la stratégie numérique qui était établi par Hughes et par Obama lui-même, était une forme de génie ou disons de compréhension de ce qui se passait?
Je pense que c'est les deux, parce que Howard Dean, en 2004, a essayé de faire, a essayé d'utiliser les mêmes outils pour créer une communauté sur le net. Mais qu'est-ce qui s'est passé, c'est que la communauté qui était sur le net n'a pas suivi. They didn't follow up with offline action.
Ça n'a pas enclenché d'action hors ligne, disons.
Donc ils étaient très actifs sur le web, mais dehors du web, il n'a pas réussi à transformer l'action qui se passait sur en ligne, en fait, à le traduire à des actions comme de voter, en fait. Donc les gens ont lui supporté beaucoup, mais ils n'ont pas voté pour lui. Et donc, qu'est-ce qu'Obama a fait d'une perspective stratégique? C'est qu'il a créé toutes les communautés qu'il a créées, toutes les choses qu'il a fait sur l'Internet, il a créé pour faciliter pour une personne de sortir dehors du web et de prendre une action de support, donc de parler à des voisins, donner d'argent. Et c'était vraiment action-oriented. Et la stratégie était que l'organisation qui se passe sur le web doit produire des actions qui se passent dehors dans le monde. Et c'était ça qui était vraiment différent. Et c'était ça, je pense, qui était la pièce qui manquait dans la stratégie de Dean. Il avait la première partie, mais pas la deuxième partie.
Donc ça, juste que si vous pouviez nous donner quelques exemples, c'était quoi? C'était donc des groupes, des communautés sur des réseaux sociaux, c'était la diffusion de vidéos sur YouTube, c'était quoi d'autre?
C'était les text messaging, les SMS, les textos sur les portables. C'était les blogs qui prenaient des histoires des gens qui étaient là en train de travailler pour lui et raconter comment c'était et pourquoi c'est important de lui supporter. C'était les réseaux sociaux qui avaient le profile d'Obama qui lui expliquait que pourquoi c'est important. Et il avait un profil sur 17 réseaux sociaux différents. Par exemple, faith-based, ce sont pour les gens, une communauté qui sont plutôt religieuses. Black Planet, Asian Avenue, Mi Gente pour la communauté latine, par exemple, ou la communauté espagnole. Et donc, il a vraiment fait l'effort de trouver où les gens se connectaient tout seuls et d'être présents avec eux. Au lieu de les forcer de lui trouver, lui, il est allé, il a dit, ben, si, parce que vous êtes là, parce que vous êtes en train de vivre une partie de votre vie dans ces communautés qui existent déjà, moi, je vais être une partie de cette vie. Et la deuxième partie, c'était la communauté que lui, il a créée, qui était seulement pour les actions. C'était les gestes que tu peux faire, comme je disais parfois, les appels, parler aux voisins, donner de l'argent, toutes ces choses-là étaient facilitées par ce programme parce que tu mettais ton adresse, ton zip code et ça donnait une liste des événements qui se passaient juste à côté de toi. Donc c'était très très facile de participer. Il a facilité la participation. Et pour les gens qui ne voulaient pas faire un grand effort, c'était très facile. Ils ne devaient pas rechercher sur l'Internet et puis essayer de retrouver. Tu allais au site, tu mettais ton zip code et l'information était là.
Ça, c'est quelque chose qui était au début de la campagne déjà complètement théorisé. Ou est-ce que vous avez vu au fur et à mesure que la campagne avait lieu, que des choses se rajoutaient, qu'on comprenait des nouvelles choses?
Je ne pense pas que c'était théorisé, tout planifié. Au contraire, je pense qu'ils ont commencé avec une idée et ils ont vu que quand il y avait des choses qui marchaient plus que d'autres, ils ont changé légèrement la stratégie pour prendre avantage, pour tirer profit de ce qui se passait. Donc, quand ils ont vu qu'il y avait un grand groupe qui se formait sur Facebook, par exemple, il y avait un grand groupe des étudiants qui avait 70 000 étudiants qui ont tout seuls s'organisés. Ils ont dit, ça c'est un grand groupe. Donc, ils ont pris tous ces groupes, ils ont dit, viens, et on veut que vous deveniez le parti officiel pour des étudiants pour Obama. Donc, ils ont vu où ils avaient des activités, ils ont embrassé tout ça, ils ont été ouverts à les changements. Et je pense que c'est un changement des autres stratégies qui sont toutes théorisées dès le début, et n'importe qu'est-ce qui se passe, ils restent sur le même chemin. Et voilà une différence en termes de comment la technologie force les politiciens à être un peu plus flexibles.
Est-ce que c'était Obama lui-même qui était flexible ou est-ce que c'était Chris Hughes principalement. Enfin, c'était quoi la connexion? Et est-ce que Obama, lui, vous avez le sentiment, je ne sais pas si vous l'avez rencontré ou discuté avec lui, ou, mais est-ce que est-ce qu'il comprenait vraiment tout ce qui se passait, ou est-ce qu'il avait délégué tout ça à ceux qui eux comprenaient?
Je pense que lui, il croyait que c'était important d'utiliser la technologie, mais c'était son équipe, c'était Joe Rosbers, qui est le directeur du New Media, et Chris Hughes. C'était les gens comme ça qui vraiment savaient comment cette technologie pouvait être utilisée. Et lui, comme chef, c'était vraiment... Pour moi, c'était incroyable de voir quelqu'un qui faisait autant de confiance dans son équipe. Il disait peut-être, je ne comprends pas tous les détails à 100% de qu'est-ce qu'on va faire, mais je sais que notre but, c'est de créer une communauté de gens qui peuvent me supporter. Et si vous croyez que c'est la bonne manière de construire cette communauté de personnes, je vous fais confiance. Et aussi, on regardait qu'est-ce qui se passait sur le net et on lisait ce que les gens disaient, ce que les gens écrivaient. Et on disait, ben, si quelqu'un a une bonne idée, ben, on va l'utiliser. Il y avait une vidéo qui a été créée qui s'appelle Yes We Can, qui a été faite par Will.i.am du Black Eyed Peas. Nous, on n'a pas lui demandé de faire, la campagne n'a pas demandé de faire cette vidéo. Mais quand ils ont su quand ils savaient que ça existait, au lieu de dire, ben, c'est pas nous qui a fait, donc ignore-le, ils ont pris le vidéo et ils ont le partagé avec toute notre communauté sur email. Toutes les gens, des millions de gens ont reçu le lien de ce vidéo.
Qu'est-ce qui reste de tout ça aujourd'hui? Est-ce que ça s'est converti? Alors, on sait pour une part que ça s'est converti dans un autre domaine qui est par exemple l'ouverture des données gouvernementales, administratives, avec la création de sites comme data.org, .gov, etc. Mais est-ce que ces communautés continuent à être animées? Est-ce qu'il n'y a pas eu une forme de déception de tous ces gens qui, d'une manière ou d'une autre, s'étaient engagés, disons, au quotidien, dans leurs réseaux sociaux, etc., pour Obama, et qui, une fois que la campagne est passée, n'ont plus vraiment d'existence? Ou est-ce qu'il y a eu la réussite d'une conversion?
Je pense que ce n'est pas vraiment clair, parce que un problème, c'est que tu ne peux pas comparer les actions de l'administration à la campagne, parce qu'en fait, c'est deux circonstances différentes. Quand on était dans la campagne, on était comme une start-up. C'était très flexible, on avait de l'argent, on faisait toutes les décisions, ils prenaient les décisions eux-mêmes. On pouvait rapidement changer de stratégie, on pouvait commencer une nouvelle technologie ou laisser tomber une autre, et on pouvait réagir rapidement à tout ce qui se passait autour de nous. Et maintenant, comparé à être dans un gouvernement où tu as la législation, tu as les lois contre la collection de données sur les gens, tu as des chaque fois que tu veux prendre une décision, tu as besoin d'une majorité, tu as besoin de faire 10-20 étapes jusqu'à ce que tu changes une décision, même quelque chose sur la technologie, il y a beaucoup de processus et des règles. Donc tu vas d'un endroit où tu bougeais tellement comme tu voulais, à la vitesse que tu voulais, à une administration qui est gérée par des règles et gérée par des règles et la vie et l'opinion de plein d'autres mondes. Donc je pense que c'est ça qui était une des difficultés qui sont rencontrées quand ils ont fait la transformation. La deuxième, c'est que quand on était dans l'élection, tout le monde avait le même but. On voulait juste que cet homme devienne le président des États-Unis. Donc c'était un but où des millions de personnes croyaient et pouvaient travailler ensemble. Maintenant, quand tu parles comme une administration, tu as les buts qui sont beaucoup plus spécifiques. Les buts pour les lois de healthcare, la santé, sur l'huile de... Le pétrole, les lois sur l'environnement, les lois sur les taxes. Et donc, tu es en train de transformer la communauté d'une communauté qui travaille envers un but à une communauté qui est maintenant divisée dans plein de petites communautés. Donc, tu ne vas pas avoir le même momentum, la même force derrière tes gestes. Et tu dois te rappeler que c'est la première fois vraiment qu'une administration est tellement ouverte à la technologie. C'est la première fois qu'Obama fait, qu'un président fait une YouTube vidéo chaque semaine pour parler aux gens, pour expliquer ce qu'il fait. C'est le White House a un blog officiel maintenant. Donc, ils sont en train de faire des étapes, ils sont en train d'avancer, mais c'est quelque chose qui n'a jamais été fait. Donc, ça va être dur. Pour le premier, c'est toujours dur, le plus dur, parce que c'est lui qui doit gérer les problèmes, qui doit trouver toutes les... qui doit découvrir par essai qu'est-ce qui ne marche pas. je pense que c'est positif, toutes les choses qu'ils ont fait avec data.gov et recovery.org. Je pense que c'est incroyable qu'ils vraiment fait l'effort pour continuer à communiquer avec cette communauté. Et ils sont en train de découvrir, donc je ne sais pas vraiment, je pense que c'est une nouvelle frontière et que ça, on va voir, le vrai test va être dans quelques mois quand ils commencent le processus lentement pour la réélection. Ben là, on va vraiment voir en préparation pour 2012 qu'est-ce qui va se passer et si cette communauté, s'ils peuvent répéter. Parce que si ça peut se répéter, je pense que tu peux dire ben c'est quelque chose qui a vraiment changé les politiques. Et si ça ne répète pas de la même manière, je dirais qu'il y aurait des gens qui te disent ben c'était juste une exception, c'était à cause du candidat, c'était à cause du crise économique, c'était à cause du à plein d'autres les façons de qu'ils pouvaient parler d'une manière qui touchait les gens. Tout ça, si ça ne répète pas, tu peux dire que c'était juste un petit moment dans l'histoire qui s'est passé. Mais moi, je pense que ça va devenir de plus en plus habitude de communiquer avec les gens, de gérer des campagnes politiques comme ça.
Mais justement, vous qui êtes spécialiste des questions de gestion des réseaux sociaux et du coup maintenant aujourd'hui des questions de stratégie politique dans les réseaux sociaux, là, il y a 2 ans sont passés depuis l'élection d'Obama. Dans 2 ans, il y a la réélection. Qu'est-ce que vous voyez apparaître comme nouveaux outils ou nouvelles formes d'utilisation, soit des réseaux sociaux, soit plus généralement des technologies, qu'il y a 2 ans, on ne pouvait pas utiliser parce qu'elles n'étaient peut-être pas assez utilisées par les internautes. Est-ce que ça change aussi vite qu'il va falloir déjà faire une nouvelle forme de campagne dans 2 ans?
Twitter, en particulier, quand la campagne était en train de l'utiliser, n'était pas aussi populaire que c'est maintenant. Mais je pense que ça change tellement vite parce que ce n'est pas seulement l'introduction des nouveaux technologie, c'est que l'équilibre change dans les technologies qui existent déjà. Par exemple, dans les dernières quelques années, c'était MySpace qui était le chef de cette industrie et maintenant MySpace descend un peu.
Chute
un peu comparé à Facebook qui continue à accumuler de plus en plus de gens. Donc, ils étaient les deux existaient avant, mais maintenant, je pense que si je devais prioriser, c'est vraiment dur à dire. Comparé à l'autre, ben, il y a 2 ans, peut-être j'aurais dit MySpace et maintenant je dirais Facebook. Et Facebook, en fait, est un cas qui est très intéressant parce que chaque quelques mois, il introduit quelque chose de nouveau. Les pages pour les fans, par exemple, et je pense qu'ils vont ajouter des autres outils, donc ça va continuer à changer. Et ça va être intéressant parce que je pense que ça va empêcher les équipes à créer la stratégie trop tôt. Parce que si tu crées ton stratégie, tu formes un plan et puis ça change parce que quelque chose se développe, tu dois changer tout ton travail. Donc ça va être une opportunité unique de voir comment les gens peuvent s'adapter. Ou s'ils peuvent s'adapter du tout à cet environnement où tu ne connais pas. Avant l'Internet, avant tout ça, tu avais une petite guide et tu fais 1, 2, 3 et voilà, c'est comment tu gérais une campagne politique. Et maintenant, ça a tout changé.
Il est 11h33, vous écoutez France Culture et Place de la Toile, le magazine hebdomadaire des cultures numériques et de leurs usages. Retour donc sur la conférence Lift 10 qui s'est déroulée la semaine dernière à Genève. On entendait une des intervenantes de cette Lift 10, Raph Harfouch, qui est spécialisée en stratégie d'utilisation des réseaux sociaux et qui racontait son immersion dans la campagne numérique de Barack Obama. Elle a un site, Raph Harfouch, que l'on trouve très facilement en tapant son nom sur n'importe quel moteur de recherche.
Faudrait voir, faut qu'on y goûte des méandres au creux des reins. Tout ira bien. Le vent l'emportera. Ton message à la grande ours, la trajectoire de la course, l'instantané de velours, même s'il sert. Le vent l'emportera, tout disparaîtra, le vent nous portera. Caresser la mitraille, cette
un des intérêts de la Lift, c'est de pouvoir rencontrer des gens qui ne sont pas toujours faciles à contacter ou à voir en France. C'est le cas de Yeon Oh Oh. Yon Ho est un personnage important du web. En 2000, il a fondé en Corée du Sud l'un des premiers journaux en ligne participatif. Son modèle est mixte, une rédaction de journalistes professionnels produit à peu près 20% des papiers. Le reste, ce sont des citoyens reporters qui les écrivent, mais ces papiers sont vérifiés et validés par la rédaction. Oh My News, ce site, fête ses 10 ans cette année. Yon Ho était présent à Genève, l'occasion pour nous de faire un bilan rapide des 10 ans de vie d'Oh My News et la manière dont l'apparition de nouveaux médias a transformé le paysage médiatique coréen. C'est d'ailleurs la première question que j'ai posée à Yon Ho. Est-ce qu'on a l'impression qu'Oh My News, est-ce qu'il avait l'impression qu'Oh My News avait changé quelque chose à la vie médiatique coréenne?
Yes, I think we changed a lot because.
Oui, je crois que nous avons changé beaucoup de choses. Parce que, comme vous le savez, la principale caractéristique d'Internet, c'est l'interactivité. Et depuis le début, dans My News, nous avons utilisé cette caractéristique unique d'Internet avec le modèle du citoyen reporter. Et depuis le début, nous avons autorisé les lecteurs à faire des commentaires au bas de chaque article. Or, les médias mainstream ont repris cette idée. Entre les médias traditionnels et les nouveaux médias, il y a une sorte de stimulation réciproque autour de l'idée que les gens ordinaires doivent participer à l'information. Donc oui, cela a changé beaucoup de choses, car les gens ordinaires peuvent faire entendre leur voix beaucoup plus qu'auparavant.
Yes, it changed a lot because the ordinary people can hear their voice better than past days.
Et est-ce que vous sentez qu'aujourd'hui vous avez une influence sur la vie politique coréenne?
Yes, of course.
Oui, bien sûr.
In Korean media market,
le marché des médias coréens a longtemps été dominé par les médias traditionnels conservateurs. Et quand nous avons fondé Oh My News en 2000, nous avons annoncé que nous serions progressistes parce que je pensais qu'il fallait rétablir l'équité. Or, à l'époque, les médias étaient à quasiment 80% conservateurs. Sur notre plateforme, nous avons donné une voix à des lecteurs plus jeunes et ça a produit un changement important. Ça a permis l'élection en 2003 d'un président progressiste. Ça a été un grand événement et un exemple significatif de la manière dont un jeune média numérique peut changer le paysage politique.
Aujourd'hui, combien avez-vous de lecteurs, si ça peut se mesurer? Combien avez-vous de pages qui sont vues par mois?
Nous avons chaque jour entre 500 000 et 1 million de visiteurs, soit à peu près 3 millions de pages vues. La plupart de nos lecteurs ont entre 20 et 45 ans, ce qui est beaucoup plus jeune que l'électorat des médias traditionnels.
So compared to the newspaper readers, younger than.
Est-ce que vous avez trouvé aujourd'hui votre modèle économique? Est-ce que vous, économiquement, vous fonctionnez?
Toute chose a une vie. The trees and animals, les arbres, and people, les animaux, les gens ont une vie. You know? I think media. Je pense que les journaux aussi ont une vie. Aujourd'hui, nous sommes heureux de fêter nos 10 ans.
We
Nous n'avions pas l'intention de faire de l'argent. Nous sommes quelque part entre l'ONG et l'entreprise. Il y a donc une atmosphère et une culture très particulière dans notre journal. Mais, comme vous le savez, la durabilité est très importante. Je suis très heureux que nous ayons pu employer 70 jeunes journalistes, que nous leur versions des salaires.
Good ones?
Relatively.
Relativement.
And you know, I think, I hope, our
d'assez bons salaires en tout cas.
Budget,
j'espère que nous pourrons augmenter nos revenus.
But,
mais jusqu'ici,
so far,
ça va.
It is okay. But whether it is new
que ce soit dans les médias traditionnels. Ou dans les nouveaux médias, diriger une organisation dédiée à l'information, ce n'est pas chose facile. Les défis sont nombreux, pour Omai News comme pour les autres.
Est-ce que vous êtes aujourd'hui pris au sérieux par les médias traditionnels coréens comme étant vraiment un acteur important de la scène médiatique coréenne ?
Le monopole des médias traditionnels est en train de s'effondrer. La diffusion des médias traditionnels diminue de jour en jour. Mais je ne pense pas qu'ils disparaissent totalement. Peu à peu, tout doucement, leur pouvoir diminuera. Je pense que les lecteurs ont deux visages. D'un côté, ils sont actifs et veulent participer. De l'autre, ils sont passifs et veulent aussi recevoir l'information. Pour cette raison, les lecteurs ont envie de deux types de médias. Ils veulent participer activement dans des médias du type Omai News. Ils veulent aussi écouter, regarder, lire. Donc oui, les médias traditionnels continuent d'avoir quelques mérites aux yeux des lecteurs passifs. L'être humain change, c'est certain, mais les grandes catégories demeurent. Donc, dans une certaine mesure, les médias traditionnels continueront d'exister, mais pas avec le même pouvoir, pas avec le même monopole que ceux dont ils ont bénéficié jusqu'ici.
De la Corée du Sud avec Yeon Ho, le fondateur du journal participatif Omai News, à la Chine avec Basil Zimmerman. Je n'avais jamais entendu parler de Basil Zimmerman avant de l'écouter sur la scène de la Lift 10. C'est un jeune sinologue de l'université de Genève et il travaille sur les interactions entre les technologies et la culture chinoise.
La question qui m'intéresse en priorité, c'est les objets. Donc pas les usages, ce que les personnes font avec la technologie, mais plutôt la technologie toute seule. C'est aussi cette idée que les facultés des lettres, là où je travaille, c'est des endroits où on s'intéresse à des textes, des images. Et donc moi, je m'intéresse à des textes, des images, des objets, mais qui sont en fait des objets technologiques. J'aime bien aussi les objets banals. Donc là, il y a une différence. Mais... Donc, je dirais, un champ, c'est les objets, et il y a un croisement de ce champ avec un autre, c'est qu'est-ce que ces objets font à la culture en général, donc la notion de culture par rapport à la technologie.
Alors, commençons par les objets. Vous avez parlé tout à l'heure dans votre présentation du clavier. Est-ce que vous pouvez détailler un petit peu, évidemment, enfin, le clavier, c'est un objet... culturel par excellence, et en quoi est-il culturel et comment est-ce que les Chinois, du coup, utilisent ce clavier ?
Ce clavier, il est très frappant parce qu'on voit dans son histoire, il a été conçu aux États-Unis. C'est même dans le nom du clavier, ça veut dire code standard américain pour les interfaces, quelque chose comme ça. Et donc, c'est basé sur l'alphabet latin. Ça veut dire, les lettres de l'alphabet, ça veut aussi dire un nombre limité de lettres, un nombre fixe. Les Chinois ont deux problèmes avec ça. Le premier, c'est que leur langue n'utilise pas l'alphabet latin. Le deuxième, c'est que leur langue est basée sur l'idée d'un nombre flexible de signes, un peu comme on peut faire plein de mots avec l'alphabet. Eux, ils peuvent faire potentiellement des caractères à l'infini. Il y en a plusieurs milliers. Donc, comment les Chinois font pour utiliser ce clavier ? Ils utilisent simplement la transcription phonétique. Donc, ils tapent la prononciation d'un caractère, par exemple « zhong », et puis ensuite, ils choisissent dans la sélection de caractères proposée celui qui leur convient, enfin celui qu'ils cherchent. Ça marche très très bien, donc ça va très vite. Et puis ensuite, si on cherche un peu plus, il faut toujours avoir à l'esprit que si vous êtes dans un objet qui n'a pas été fait pour votre culture, il y a des conséquences forcément qui sont observables, mais il faut vraiment les chercher. Là, on voit que les gens ont de la peine à écrire à la main. Parce que le contenu du logiciel n'implique pas une connaissance active des caractères qui composent, des traits qui composent les caractères. Donc une personne chinoise qui utilise ce système pour écrire tout le temps, au bout d'un moment, ne sait plus trop à la main comment est-ce qu'on doit écrire. Un peu comme en français, quelqu'un qui utiliserait toujours un correcteur d'orthographe, qui tout d'un coup se retrouverait un peu mal à l'aise à la main. J'ai entendu des ingénieurs se plaindre du fait que la langue chinoise n'est pas pratique, qu'elle pose des problèmes de par sa nature, sans se poser la question de savoir si c'est vraiment la langue chinoise qui n'est pas pratique, parce qu'ils l'utilisent depuis 3000 ans, donc je pense que si elle n'était pas pratique, ils auraient déjà remarqué, mais que c'est l'ordinateur en fait qui pose problème. Donc on incrimine plus facilement la culture chinoise que la technologie, le contenu de la technologie.
Ce qui pose quand même une question que vous avez posée à la fin de votre présentation et qui est absolument passionnante, qui est la question du fait que la technologie est culturelle et que l'ordinateur a été fabriqué ou créé tel qu'il existe aujourd'hui en Occident, dans le monde anglo-saxon en particulier, États-Unis, Angleterre, et que selon vous, et c'est tout à fait compréhensible, il a en lui-même, dans son fonctionnement lui-même, quelque chose de profondément occidental.
Oui, c'était un peu ma conclusion qui n'est pas nouvelle. Il y a déjà quelqu'un qui s'appelle Georges Simondon qui l'a dit en 1958. C'est que la technologie, c'est de la culture en fait. C'est un contenu avec du langage, avec des habitudes qui souvent devient invisible. Et donc l'idée de culture, il faut l'intégrer. Ça demande un effort. Et je crois qu'il faut simplement commencer par se débarrasser de l'idée que c'est que quelque chose peut être neutre. Ça, simplement, ça, c'est pas possible. Forcément, il y a des choix qui ont été faits qui conduisent à cet objet.
Mais par exemple, sur le cas proprement chinois, vous avez cité un exemple qui est absolument intéressant, qui est la question de l'aptitude de l'ordinateur à être très fort aux échecs et mauvais aux jeux de Go.
Oui, alors ça, c'est un exemple qui me passionne. Malheureusement, je n'ai pas les compétences en mathématiques et en programmation. J'ai acheté des livres, en fait, très épais, qui font très peur. Je les utilise pour caler les portes, des fois, sur la logique interne de la technologie informatique. Parce que je suis très intéressé donc, par le fait que l'ordinateur ne sait pas jouer au Go. J'ai pas regardé très récemment, mais ces dernières années, j'avais regardé très en détail. Il y a carrément des concours qui ont été mis en place pour quelqu'un qui arriverait à écrire un logiciel qui sache bien jouer au Go. Et il n'y a carrément pas de candidat qui propose. Et on cherche à faire un logiciel qui sache battre un joueur amateur de Go. On n'arrive même pas à faire ça. Alors, il y a quelque chose de frappant. J'ai posé la question à une personne qui faisait de la recherche en théorie des jeux, en informatique, qui m'a expliqué qu'on ne sait pas comment programmer ça. Ce n'est pas le nombre de coups possibles. Il est effectivement un peu plus grand pour le Go que pour les échecs, mais dans les deux cas, l'ordinateur ne peut pas gérer tous les coups possibles, il y en a beaucoup trop. Donc c'est plutôt une idée de comment on doit penser la stratégie de ce jeu. Et on n'arrive pas à penser le Go. Et donc je me dis, est-ce que, sachant que tout est culturel, ça veut dire que les principes mathématiques, logiques qui sont dans l'ordinateur, forcément sont culturels aussi. On pourrait en avoir d'autres. Et c'est très simple comme idée finalement. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose de fondamental qui empêche une bonne programmation du jeu de Go ? C'est instinctif, c'est un peu logique. Je me dis, il doit y avoir ça quelque part, ça doit être observable et démontrable. Malheureusement, il faut que je trouve de l'aide.
Et ce qui pose aussi une question que vous avez posée vous-même dans votre présentation, qui est à quoi ressembleraient les technologies le jour où elles sont fabriquées? Parce qu'effectivement, l'innovation sera sans doute chinoise très vite. Elle est déjà sans doute en partie pour des champs, peut-être qu'on ignore un peu plus que notre informatique usuelle. Et que si elle est adaptée à la Chine, au fonctionnement chinois, au fonctionnement linguistique chinois, à quoi effectivement ça pourrait ressembler? Enfin, c'est une très belle question.
Elle est très intrigante en même temps, parce que le jour où les Chinois domineront ou seront un des acteurs principaux de la technologie, de l'innovation technologique, c'est évident qu'il va se passer quelque chose similaire à ce qu'on a observé pour l'anglais, les États-Unis. Alors aujourd'hui, ça nous semble naturel d'avoir des mots anglais partout, d'avoir des choses qui viennent des États-Unis. Par exemple, qu'un clavier d'ordinateur n'ait pas d'accent aigu français, c'est pas un problème. Ça, c'est en anglais, mais on trouve ça presque normal. Les adresses web, j'ai donné cet exemple aussi, un email, tout ce qui touche le courrier électronique est en anglais. Le jour où les Chinois développent, ils vont le développer pour eux. Et ils sont assez nombreux, ils n'ont pas besoin de... On le voit sur les compagnies chinoises, oh, je fais des anglicismes, pardon, les sociétés chinoises commerciales qui sont très... qui ont beaucoup de succès en Chine, ce sont des sociétés qui se concentrent sur le marché chinois, pour l'instant. Et donc, ça veut dire que les outils qu'ils développent sont pour la culture chinoise. Alors, logiquement, un jour, on va avoir des choses qui vont venir ici et qui seront partie d'autres idées. Alors je pense que ça va se passer au niveau je pense que le clavier va disparaître. À ce niveau-là, les changements récents d'Apple avec le iPhone, l'iPad, donc enlever le clavier et remplacer ça par une interface plane, je pense que ça c'est quelque chose qui va se passer et que la Chine va avoir un mot à dire important sur ce type de développement. Je pense aussi que dans l'industrie du jeu, va voir quelque chose se passer parce que les Chinois sont très joueurs. Il y a énormément de pratiques liées au jeu. Les gens vont sur Internet pour jouer. Et donc, il y a des choses qui devraient se passer, qui seront peut-être... les Japonais nous ont déjà surpris avec les Tamagotchi. Donc, peut-être des choses dans cette direction-là. Pour le reste, alors... Mild apprehension. Blank dreams of the coming fun.
Basile Zimmermann, sinologue à l'Université de Genève, trace avec prudence quelques lignes pour l'avenir des technologies depuis sa connaissance de la Chine et de sa culture. Pour d'autres personnes présentes à la LIFT 10, tenter de prédire les grandes tendances à venir est un métier. On les appelle les futuristes, sans aucun rapport avec le mouvement de Marinetti. James Cassio est l'un des plus célèbres d'entre eux, américain, classé en 2009 par la revue Foreign Policy comme l'un des 100 penseurs les plus influents. Il élabore depuis le milieu des années 90 des scénarios de prédiction qui touchent à des domaines très variés, l'urbanisme, l'écologie, les rapports sociaux, l'éthique et évidemment l'évolution des technologies. Il a un côté gourou assez affirmé et peut prononcer très sérieusement à votre micro des phrases comme
« You are becoming more than just you ».
Autrui est en train de devenir plus que simplement autrui. Autrui sera bientôt un individu profondément inséré dans une société augmentée par la technologie.
Alors, ce n'est sans doute pas sa prédiction la plus brillante ni la plus originale, mais James Cassio a, dans l'Amérique technophile, une importance qu'on ne peut pas nier. Et plus que sur ses scénarios touchant à notre avenir, c'est sur la manière dont il travaille, et avec le web en particulier, qui me semblait intéressant d'interroger.
The web is actually my primary tool as a futurist.
Dans mon métier de futuriste, le web est mon principal outil. Mon travail de futuriste consiste d'abord à scanner, à parcourir le web. Ce qui signifie que je passe mes journées et mes nuits à observer ce qui est en train de se passer sur le web pour essayer de trouver de nouvelles choses, pour trouver des choses surprenantes. Je vois mon travail comme une veille, une sorte de veille par anticipation. Il n'y a aucun intérêt pour moi à me contenter de ce dont tout le monde parle. Ce que je cherche, c'est ce dont peu de gens parlent, mais fait lien, qui crée des connexions. Or, de tout ce qui est autour de nous, le web est ce qui fabrique les liens les plus intéressants. Le web est là, disponible. Il a déjà transformé le futurisme, car il nous donne à tous la capacité de voir littéralement le monde, de le toucher. Je ne pourrais pas travailler sans le web.
Qu'est-ce que vous trouvez, un exemple de choses trouvées comme ça, qui vous aident à faire des connexions?
J'essaie de lire à la fois les journaux scientifiques, les revues universitaires, des sources qui proviennent de la culture populaire, et puis les travaux d'autres futuristes. Mon but avec tout ce travail, c'est de chercher les connexions surprenantes. Je vais vous donner un exemple. Alors, il ne révèle pas exactement du futurisme, mais il montre comment on peut recontextualiser le monde, le percevoir différemment. Dans le domaine de la spiritualité, dans la notion d'indulgence, dans toute l'histoire de l'Église catholique, existe cette question, comment vendre son âme? Eh bien, cette notion, l'idée, vendre son âme, qu'est-ce qui se passerait si on la déplaçait dans un autre champ? Que serait un produit dérivé de l'âme, par exemple, si on se place dans le champ des politiques économiques? Tout ça revient à la question de savoir comment on regarde les choses. Est-ce qu'on peut prendre une métaphore utilisée dans un domaine pour l'appliquer à un autre? Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que vous connaissez les mash-ups? Les mash-ups en musique? Eh bien, une grande partie de mon travail, de ce que je fais au quotidien, c'est un mash-up de la réalité. Prendre les éléments que j'ai trouvés dans la science, dans la culture, et voir ce qui se passe si je les colle les uns aux autres. Voir ce qui se passe si on assemble une discussion sur les biotechnologies avec une discussion sur l'efficience énergétique. Ce qui en résulte, le plus souvent, n'a pas de sens sur le moment. Mais ça peut devenir une révélation. Une direction totalement nouvelle pour ma réflexion, pour mes recherches, une direction que je n'aurais pas prise si je n'avais pas assemblé ces éléments.
Quelle est la part d'imaginaire provenant de la fiction dans tout ça? Est-ce que vous lisez de la science-fiction? Est-ce que vous regardez des films de science-fiction? Et comment est-ce que ça vient interférer dans le grand mash-up dont vous venez de parler?
La science-fiction est relativement importante pour le travail du futuriste. C'est une autre source d'inspiration, la possibilité de découvrir ces connexions surprenantes.
C'était donc un retour sur la Lift 10 qui s'est déroulée la semaine dernière à Genève avec, dans l'ordre d'apparition, Mercedes Buns, Olivier Glasset, Raaf Arfouch, Yon Ho-Ho, Basil Zimmermann et James Cassio. Merci aux organisateurs de la Lift, notamment Laurent Haug et Nicolas Nova. Merci aussi à Anaïs Quin, Gilles Davidas et Florian Delorme pour les voix. Place de la Toile, Xavier Delaporte, Daphné Abgral à la technique, c'était Bruno Gagnère et ce matin Jean-Frédéric. Réalisation Daniel Finot. La semaine prochaine, deux sujets. Nous parlerons de nouveaux problèmes juridiques posés par le web avec Thomas Berns et Antoinette Rouvroy. Puis nous parlerons théâtre avec Ellie Cummins qui met en scène actuellement une pièce qui utilise Twitter en temps réel. Ce sera donc vendredi prochain dans Place de la Toile. D'ici là, très bonne semaine à toutes et à tous.